Test, test, ça passe. Ok, merci. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. C'est un privilège pour moi d'avoir partagé la parole de Dieu avec vous ce matin. Et déjà, je me suis réjoui de me retrouver encore parmi nous dès dimanche passé, après quelques moments passés en famille au Cameroun. Plus de 2 mois, ça a été des moments bénissants. Et nous voulons nous réjouir de ce que le Seigneur nous donne de pouvoir ce matin partager sa parole ensemble. Nous allons ensemble méditer aujourd'hui sur la parabole du bon samaritain. Et déjà, nous pouvons observer que dans le Nouveau Testament, une grande partie de l'enseignement de Jésus-Christ a été fait en parabole, n'est-ce pas? Et on dénombre à peu près une quarantaine de paraboles qui sont attribuées au Seigneur Jésus. Et cela montre un peu l'importance que cette approche pédagogique relève dans la prédication du Seigneur Jésus. Il utilisait beaucoup plus de paraboles pour faire comprendre un certain nombre de messages, pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il y avait une certaine hostilité même de la part de son auditoire, les pharisiens notamment. Et Jésus utilisait donc les paraboles pour faire passer un message. Et c'est parfois à la fin de la parabole que les pharisiens, ceux qui l'écoutaient, réalisaient exactement ce qu'il voulait dire. Et déjà, le Seigneur avait fait comprendre son message. Aujourd'hui, nous terminons une série de paraboles au cours desquelles les paraboles du Seigneur Jésus ont été abordées. Et de manière sélective, nous avons abordé quelques paraboles. Nous avons abordé la parabole des 10 vierges. Nous avons abordé la parabole de l'ivraie. Également, la parabole du juge inique et de la veuve importune. Nous avons abordé également la parabole de l'enfant prodige, la parabole du festin du roi. Et aujourd'hui, comme je le disais, nous allons partager sur la parabole du bon samaritain. Et déjà, nous sommes encouragés à continuer à poursuivre l'étude sur les paraboles, n'est-ce pas? Nous allons boucler avec la parabole du bon samaritain, mais ne nous arrêtons pas là, à la maison. Essayons encore de continuer à étudier ces paraboles parce qu'il y a une profonde richesse dans ces paroles du Seigneur. Et dans cette perspective, je voudrais juste rappeler brièvement quelques principes d'interprétation des paraboles que le bien-aimé frère Emmanuel Fargeau nous avait donnés lorsqu'il a commencé cette série sur les paraboles. Il nous avait encouragé, il nous avait parlé de la nécessité de respecter le contexte, n'est-ce pas? Il avait parlé également de la nécessité de chercher à saisir le sens principal de la parabole, parce qu'une parabole a toujours un sens principal qu'il est important de cerner. Il nous avait parlé également de la nécessité d'éviter de rechercher dans chaque détail une signification. Parce que lorsqu'on essaye de chercher dans chaque détail d'une parabole une signification, très souvent on se perd. Il nous a encouragé également à se rassurer que l'interprétation d'une parabole respecte les autres doctrines de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Qu'une parabole en elle seule ne peut pas faire l'objet d'une doctrine. Et de manière assez équivalente, il y a un théologien, Amar Djabala, un théologien canadien d'ailleurs, dans son livre Les paraboles aujourd'hui, il va mettre l'emphase sur un certain nombre de précautions que nous devons prendre pour interpréter les paraboles de Jésus. Alors tout d'abord, il met l'accent sur la nécessité d'éviter l'allégorisme. Qu'est-ce qu'il appelle allégorisme? L'allégorisme, pour lui, ça consiste à interpréter la parabole en accordant sans justification des significations au thème et aux détails du texte. C'est-à-dire, il y a certains petits détails dans les paraboles et parfois, sans justification, on veut leur accorder une importance. Et Ahmad Jabala nous demande donc de faire attention lorsqu'on veut interpréter des paraboles. En second lieu, il suggère de tenir compte du contexte évangélique. Et là, il s'agit des indications qui introduisent et concluent très souvent les paraboles dans les évangiles. Et ces éléments, généralement, nous fixent un peu sur l'idée principale de la parabole. À titre d'exemple, je veux prendre la parabole du juge unique et de la veuve dans Luc chapitre 18, versets 1 à 8. Elle commence par une introduction comme suit. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. C'est comme ça que la parabole dans Luc chapitre 18 commence. La parabole de l'homme riche dans Luc 12, versets 16 à 21, s'achève par cette conclusion au verset 21. Il en est ainsi pour celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Donc dans chaque parabole, très souvent en introduction ou à la conclusion, il y a des paroles qui nous permettent de savoir de manière précise de quoi il s'agit dans la parabole, n'est-ce pas? Et ces théologiens nous encouragent, lorsqu'on étudie une parabole, à regarder ces paroles introductives, ces paroles conclusives, pour pouvoir comprendre le message principal d'une parabole. Enfin, ils nous demandent également de tenir compte du contexte socio-culturel. Et là, il s'agit du contexte juif du premier siècle, n'est-ce pas? Parce que la plupart des paraboles de Jésus étaient des paraboles, étaient des paroles qu'il adressait aux juifs du premier siècle. Et si on ne comprend pas vraiment le contexte juif du premier siècle, ce sera difficile pour nous de comprendre les paraboles. Aujourd'hui, nous allons parler de la parabole du bon samaritain. Et si je ne comprends pas le contexte dans lequel Jésus utilise un élément comme le samaritain dans la parabole, pour quelqu'un du 21e siècle, parler d'un samaritain, on ne sait pas trop ce que c'est, n'est-ce pas? Mais dans le contexte juif du premier siècle, lorsqu'on parlait d'un samaritain, lorsque Jésus introduit le samaritain dans la parabole, c'était pratiquement une provocation, n'est-ce pas? En dernier lieu, donc, le théologien Ahmad Jabala nous encourage pour l'application des paraboles à notre vie de tous les jours. Il nous demande, une fois qu'on a compris les paraboles, donc, de laisser simplement ces paroles du Seigneur Jésus-Christ nous parler dans notre contexte aujourd'hui et en rapport avec nos besoins et nos préoccupations personnelles. Donc, en résumé, quatre précautions qu'il faut prendre pour interpréter une parabole. La première, c'est éviter l'allégorisme, n'est-ce pas? La deuxième, c'est de tenir compte du contexte évangélique, n'est-ce pas? C'est-à-dire de quoi est-ce qu'on parle exactement. Troisième chose, le contexte socio-culturel, c'est-à-dire le contexte juif du premier siècle. Et enfin, une application à notre vie personnelle. Nous allons baisser nos têtes et nous allons prier. Notre Dieu et notre Père, en ce moment, nous voulons ouvrir ta parole, Seigneur. Nous prions pour que tu parles à nos cœurs encore ce matin. Nous prions afin que tu nous encourages. Nous prions afin que tu nous corriges. Nous prions afin que tu t'adresses à nos cœurs. Nous prions afin que tu nous défies, Seigneur. Nous prions afin que tu nous donnes de pouvoir être les hommes et les femmes que tu voudrais que nous soyons. Seigneur, nous sommes à tes pieds, comme tes disciples. Nous voulons entendre ta parole, Seigneur. Nous voulons qu'elle résonne dans nos cœurs d'une manière tout à fait nouvelle. Peut-être nous avons eu à écouter, à méditer sur la parabole du bon samaritain plusieurs fois déjà, Seigneur, mais ce matin, nous voulons que tu nous parles d'une manière nouvelle. Nous voulons que tu t'adresses à nos cœurs et que tu nous dises quelque chose. Nous nous soumettons, Éternel, à ta Seigneurie, dans le beau et précieux nom de Jésus. Amen. Dans Luc chapitre 10, verset 25 au verset 37, nous allons lire dans le récit de la parabole du bon samaritain. Luc chapitre 10, verset 25 au verset 37. Nous lisons. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite, qui arrivait aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain, qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers, les donna à l'autre et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, « Va, et toi, fais de même. » Alors, ce texte sur la parabole donc, du bon samaritain, nous allons l'étudier autour de trois grandes séquences. La première séquence, d'abord, sera question pour nous d'explorer un peu le contexte dans lequel cette parabole a été énoncée. Et comme nous le verrons, le contexte de cette parabole, c'est simplement celui d'une question essentielle pour l'homme. En second lieu, donc, nous allons essayer de comprendre la parabole dans son sens premier. Quel est le message essentiel que le Seigneur Jésus-Christ voulait donner à son auditoire? Et après, nous allons voir quels sont les enseignements que nous pourrons tirer de cette parabole aussi qui revêt un sens symbolique, n'est-ce pas? Il y a un message qu'on peut tirer de cette parabole et qui peut permettre de s'appliquer à notre vie. Donc, le texte que nous venons de lire s'ouvre par une phrase Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Alors, remarquons déjà que l'intention du docteur de la loi, c'est-à-dire celle d'éprouver Jésus, ça survient après que Jésus ait prié à haute voix au verset 21 du même chapitre. Voici la prière que Jésus adresse. Il dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Dans au verset 21 de Luc chapitre 21, voilà un peu, de Luc chapitre 10, voilà un peu la prière que Jésus adresse. Et quelques versets plus loin, au verset 25, un docteur de la loi vient donc et il adresse une question à Jésus, un peu comme pour l'éprouver. Alors, qu'est-ce qui était vraiment dans la tête du docteur de la loi lorsqu'il pose cette question à Jésus? Est-ce qu'il avait une réponse à la question et il voulait savoir si Jésus connaît aussi la réponse? Ou alors c'était une question qui avait tourné dans son cœur, qu'il avait tourné dans son cœur pendant longtemps et il cherchait vraiment une réponse? En tout cas, quel que soit le cas, que ce soit de manière intentionnelle, que ce soit une question à laquelle il cherchait de réponse, ce que nous pouvons déjà constater et découvrir, c'est que c'est une question essentielle pour l'homme. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle? Dans la parole de Dieu déjà, la question de la vie éternelle, c'est une question qui révèle trois réalités. Une première réalité, c'est que la vie éternelle est considérée dans la parole de Dieu comme une vie qui n'a pas de commencement dans le passé, n'est-ce pas? À titre d'exemple, dans 1 Jean chapitre 1, le verset 2, voici ce que la Bible nous dit. « Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. » Donc là, on nous parle d'une vie qui n'a pas de commencement dans le passé. Il s'agit de Jésus qui était auprès du Père, n'est-ce pas, et qui a été manifesté par la suite. La vie éternelle dans la parole de Dieu aussi, c'est une réalité présente, n'est-ce pas? Dans Jean chapitre 3, le verset 16, voici ce que la Bible nous dit. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Qu'il ait la vie éternelle. Et non pas qu'il aura la vie éternelle, et non pas qu'il avait la vie éternelle, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand tu crois en Jésus, tu as la vie éternelle dans le présent. Un peu plus loin, au verset 36 de Jean chapitre 3, toujours, la Bible dit, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. » Donc, la vie éternelle, c'est une réalité passée, n'est-ce pas, pour certains êtres comme Jésus. La vie éternelle, c'est une réalité présente aussi. Et la parole de Dieu nous présente la vie éternelle aussi comme un peu les bénéfices futurs de ceux qui vont mettre leur confiance en Jésus. C'est exactement cette troisième réalité dont il est question. Lorsque le docteur de la loi vient voir Jésus et lui dit « Qu'est-ce qu'il faut faire pour hériter la vie éternelle ?» Il lui pose la question en fait de savoir « Qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir bénéficier de ces bénédictions que tu réserves à tes élus ?» Voilà la question que cet homme pose à Jésus-Christ. Et alors, nous pouvons nous poser aussi la question de savoir, mais en quoi est-ce que cette question est importante? Elle est importante tout d'abord parce que c'est une question qui revient très souvent dans la parole de Dieu, la question de la vie éternelle. Nous avons l'exemple du docteur de la loi dans Luc chapitre 10, comme on vient de lire. Nous avons également un autre épisode dans la Bible, le jeune homme riche. Dans Marc chapitre 10, le verset 17, la Bible dit ceci, « Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Voilà un autre épisode encore. Quelqu'un vient poser la même question à Jésus. Qu'est-ce qu'il faut faire pour hériter la vie éternelle? Un autre exemple, c'est celui de Jean chapitre 3, n'est-ce pas, l'épisode de Nicodème, que nous connaissons sans doute, où il vient voir Jésus de nuit et il commence à dire un certain nombre de choses à Jésus. La Bible dit, « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Donc, c'est quelque chose d'important parce que ça revient dans la parole de Dieu, ça revient dans la Bible. Fréquemment, il y a des gens qui posent la question à Jésus de savoir, « mais qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle ?» Et certains théologiens disent que près de 40 fois dans la parole de Dieu, cette question de la vie éternelle revient encore. C'est une réalité importante. Elle est importante aussi parce que la Bible nous dit dans Ecclésiaste chapitre 3, le verset 11, que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Chacun d'entre nous a un peu ce sens, cette question par rapport à l'éternité. Et en cela, cette question que le docteur de la loi pose à Jésus est une question importante. Et enfin, c'est une question importante parce qu'un jour, chacun d'entre nous a un jour eu à faire face à cette question pour lui-même. Est-ce que j'ai la vie éternelle? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir la vie éternelle? Peut-être tu te poses cette question en ce moment. Peut-être tu t'es déjà posé cette question un jour dans ta vie. n'est-ce pas? Et c'est une question essentielle, et c'est une question importante, effectivement. Et à cette question, dans la vie, très souvent, le monde autour de nous propose certaines réponses. Alors pour certains, la vie éternelle, c'est peut-être d'essayer de pérenniser sa vie en donnant son nom à une rue, à un monument, n'est-ce pas? Et presque partout autour de nous, les monuments, les noms, les rues, les places portent les noms des gens, n'est-ce pas? Je me suis amusé un peu à chercher qui était Lacordaire, n'est-ce pas? La fameuse rue Lacordaire. Et voici ce que j'ai trouvé. Le boulevard Lacordaire est une large artère nord-sud de l'est de l'île de Montréal. Son nom est en hommage au dominicain français Henri Lacordaire, qui a vécu de 1802 à 1861. Alors, manifestement, voilà quelqu'un qui a mis son nom un peu dans l'histoire, n'est-ce pas? Ou quelqu'un dont on a mis le nom dans l'histoire. Mais est-ce que c'est ça la vie éternelle? La vie éternelle aussi, pour certains, c'est peut-être de rattacher nos noms à une réalisation, n'est-ce pas? Et c'est quelque chose qui est fréquent dans les sciences. Dans le domaine scientifique, très souvent, lorsqu'on parle d'un théorème, d'un axiome, tout de suite à côté, il y a le nom de quelqu'un. On va parler, par exemple, de la loi de Lavoisier. On va parler du théorème de Newton, n'est-ce pas? Et presque tous les théorèmes en science portent le nom de quelqu'un. Encore une fois de plus, est-ce que c'est ça, la vie éternelle? Pour d'autres encore, la vie éternelle, c'est parfois trouver leur, ou plutôt une signification, une réponse dans des croyances un peu étranges. Et nous connaissons un peu la loi de la réincarnation. Beaucoup de personnes pensent que l'homme vit éternellement en ceci que, après la mort, on se réincarne en un animal ou on se réincarne en une autre personne. Mais ce sont vraiment des choses qui sont très étranges. Pour d'autres aussi, la vie éternelle, c'est parfois essayer par des mécanismes de freiner ou d'arrêter le vieillissement, n'est-ce pas? Et on pense que de cette façon, on peut réussir à maîtriser les lois de la nature, les lois du vieillissement et de cette façon vivre éternellement. Alors, le 18 septembre 2017, il y a un journal qui reprenait un extrait de la chaîne BBC et qui annonce que les chercheurs ont découvert un endroit permettant à l'homme de devenir immortel. Alors, selon cette annonce, les astrophysiciens qui étudient les trous noirs, ils ont émis une hypothèse selon laquelle, si un homme se trouve près de cette anomalie spatiale, il cessera de vieillir. Donc, voilà ce qu'un journal annonce, n'est-ce pas? Qu'il y a un espace, qu'il y a un endroit dans l'espace où, si je reste à côté de cet endroit, je vais cesser de vieillir. Alors, mais cette même annonce ajoute que, cependant, il n'est pas possible d'éviter le vieillissement, juste seulement en théorie. En pratique, tout corps s'étant rapproché du trou noir est désintégré, ce qui naturellement provoque sa mort. Donc, c'est un endroit où si tu restes, tu ne vieillis plus, mais il se trouve que quand tu te rapproches de cet endroit-là, ça te désintègre et tu meurs. Donc, finalement, on se demande donc qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, voilà un peu ce que le monde, voilà un peu ce que notre environnement propose comme alternative, comme solution pour la vie éternelle. Mais quelle est la réponse que la Bible donne à cette question essentielle, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle? Au passage, lorsque cette question est posée à Jésus, Jésus qui renvoie le docteur de la loi à la loi, n'est-ce pas? C'est un docteur de la loi qui maîtrise la loi et Jésus lui dit, ok, qu'est-ce que la loi dit par rapport à cette question? Et le docteur de la loi, il trouve juste, n'est-ce pas? Il n'a pas raté, il a trouvé juste. Alors, on peut se poser la question de savoir, quelqu'un pose une question, il a lui-même la réponse à la question, mais il pose quand même la question. C'est quand même assez surprenant. Alors, déjà, ce que ça nous enseigne, c'est que notre marche avec Dieu, les problèmes que nous avons dans notre marche avec Dieu, c'est beaucoup moins parce que nous ne connaissons pas que plutôt parce que nous ne pratiquons pas, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses que nous connaissons, mais si nous avons des problèmes dans notre marche avec Dieu, c'est parce que ces choses que nous connaissons, nous ne les mettons pas toujours en pratique. La réponse à la question donc est simple. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle? Tu aimeras l'éternel et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, deux choses que le Seigneur Jésus dit, aimer son prochain, aimer Dieu. Dans la parole de Dieu, déjà, ces deux choses sont indissociables, n'est-ce pas? Aimer Dieu et aimer son prochain. Dans Matthieu 22, du verset 37 au verset 39, Jésus dit que le commandement d'aimer son prochain comme soi-même est semblable à celui d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée. Jésus dit que c'est un commandement qui est semblable. Donc, aimer son prochain est semblable à aimer Dieu. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 20, l'apôtre Jean nous rappelle que l'amour pour Dieu se traduit par un amour pour notre prochain. N'est-ce pas? Nous y reviendrons. Alors, il y a donc deux choses qu'il faut faire pour éviter la vie éternelle, aimer Dieu et aimer son prochain. Dans la Bible, nous allons voir l'histoire du jeune homme riche, nous l'avons souligné tout à l'heure, qui est venu poser la même question à Jésus, n'est-ce pas? Et dans cet épisode, la parole de Dieu met l'accent sur aimer Dieu de tout son cœur. Parce qu'on va voir un jeune homme riche qui n'arrive pas à aimer Dieu plus que les richesses, n'est-ce pas? Et on comprend un peu ce qui se passe avec la suite de l'histoire. Et là, la parole de Dieu met l'accent sur aimer Dieu de tout son cœur. Et dans la parabole du bon samaritain, il est plutôt question d'aimer son prochain comme soi-même. Et c'est sur ça que nous allons mettre l'accent également. Au verset 29, il est dit que le docteur de la loi voulant se justifier dit à Jésus, « Mais qui est mon prochain ?» Jésus lui dit ce qu'il faut faire, ou plutôt lui-même y trouve ce qu'il faut faire. Et Jésus dit, « Tu as bien trouvé la réponse à ta question. » Et lui veut se justifier, il pose à Jésus une autre question, « Qui est mon prochain ?» Alors, on peut se dire que, mais pourquoi est-ce qu'il pose cette question? Mais il faut regarder un peu le contexte dans lequel cet homme se trouve. C'est un docteur de la loi, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a pour base de référence la loi. Et on se souvient que la loi dit ceci, c'est ce que Jésus nous rappelle dans Matthieu chapitre 5, le verset 43. Il est écrit dans la loi de Moïse, « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » N'est-ce pas? Donc le docteur de la loi, lui, sait que la loi dit d'aimer son prochain et de haïr son ennemi. Donc, il se dit, ben, si je dois aimer l'Éternel de tout mon cœur, c'est bon, aimer mon prochain comme moi-même. Mais qui est donc mon prochain? Et on comprend que sa question peut être un peu justifiée, n'est-ce pas? Et quelque part, on peut se dire même que, mais si la loi de Moïse dit d'aimer son prochain et de détester son ennemi, c'est un commandement qui devient facile à mettre en œuvre. Parce que quand je peux aimer quelqu'un, je l'aime. Si je ne peux pas l'aimer, je dis, mais ça, c'est mon ennemi. Et là, je respecte la loi, n'est-ce pas? C'est pourquoi le docteur de la loi pose la question quand même. Il suffit donc d'aimer ceux qui sont aimables et les considérer comme nos prochains, et ceux qu'on ne peut pas aimer, les considérer comme nos ennemis. Et là, ça devient facile de mettre en œuvre ce verset. Mais dans le cœur du docteur de la loi, il sent qu'il y a quelque chose. Il sent que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi il pose la question à Jésus. Il y a beaucoup d'exemples, beaucoup d'histoires qui illustrent comment c'est facile d'aimer nos amis. Je me rappelle de cette histoire que j'ai apprise quand j'étais petit. C'est cette histoire, le retour d'une papaye. C'est un homme qui va au champ avec son fils et il arrive au champ pendant qu'il travaille, chacun de son côté. Il voit un papayer et tout de suite, il trouve une papaye qui est déjà bien mûre sur le papayer. Alors, il va, il l'accueille et tout de suite, quand il voit la papaye, il pense, cette papaye fera certainement plaisir à mon fils. Il prend la papaye, il appelle son fils et il dit, tiens, mon fils, voici une papaye pour toi. Le fils prend la papaye, il est content. Et quand il voit la papaye, tout de suite, il pense dans son cœur, « Cette papaye fera certainement plaisir à ma mère. » Il met la papaye dans son sac et il rentre à la maison et il offre gentiment la papaye à sa mère. Quand la maman prend la papaye, elle regarde, tout de suite, elle pense, « Cette papaye fera plaisir à mon mari. » Et alors, elle prend la papaye et quand son mari rentre le soir, elle lui présente cela avec le repas. Et tout de suite, quand il voit la papaye, il se souvient que c'est la papaye qu'il avait offerte à son fils. Il prend simplement la papaye, il la partage, et toute la famille mange ensemble. N'est-ce pas? C'est une petite anecdote qui montre comment c'est facile d'aimer ceux qui nous aiment. Mais aimer ceux qui ne nous aiment pas, aimer ceux qui, entre guillemets, sont considérés comme nos ennemis, là, c'est une autre question. Et Jésus utilise donc la parabole du bon samaritain pour faire comprendre au docteur de la loi que les exigences de Dieu vont bien au-delà de la loi de Moïse qui était vraiment quelque chose de pédagogique. Lorsqu'elle prescrivait d'aimer son ennemi, d'aimer son ami et de détester son ennemi. C'était vraiment une pédagogie divine. Venons maintenant au contenu de la parabole du bon samaritain. Alors, pour comprendre le sens premier de la parabole du bon samaritain, il est important que nous regardions un peu les personnages que Jésus introduit, n'est-ce pas? Pour pouvoir voir exactement le message qu'il veut transmettre. Le Seigneur Jésus nous parle du prêtre et du lévite. Alors, ce sont tous deux des serviteurs dédiés au service de Dieu dans le temple. Et comme le souligne Deutéronome 33, verset 10, « Ils enseignent tes ordonnances à Jacob et ta loi à Israël. Ils mettent l'encens sous tes narines et l'holocauste sur ton autel. » Voilà le prêtre, le sacrificateur et le lévite dont il est question dans notre texte. Ensuite, le Seigneur Jésus introduit un autre personnage, le voyageur. Nous n'avons pas beaucoup d'informations sur lui, n'est-ce pas? La seule chose qu'on a, on ne connaît pas son identité, on ne sait pas d'où il sort. Mais la seule chose qu'on nous dit, c'est qu'il partait de Jérusalem vers Jéricho, n'est-ce pas? Jérusalem-Jéricho, c'est deux villes qui sont distantes d'à peu près 27 km, n'est-ce pas? Et il y avait une dénivelée de près de 400 mètres entre Jérusalem et Jéricho. C'est pourquoi le récit précise qu'il descendait de Jérusalem vers Jéricho. À la lecture du récit, le seul lien, c'est que c'est un être humain comme les autres personnages. Et on ne connaît pas grand-chose. Ensuite, le Seigneur introduit un autre personnage qui est le Samaritain. Et à ce niveau, il est important de s'arrêter un peu pour comprendre ce que le Seigneur Jésus a introduit comme intrigue donc, dans ce récit. Alors, les Samaritains sont les habitants de Samarie. Alors, tout commence avec le schisme au temps du roi Roboam, le petit-fils de Salomon. Le prophète Achija déclare de la part du Seigneur que le royaume d'Israël sera divisé en deux. Le royaume du sud, couramment appelé Juda, et qui regroupe les tribus de Juda et Benjamin. Et ce royaume-là, qu'on appelle le royaume du sud, et qu'on va appeler très souvent Juda dans la Bible, c'est la partie d'Israël qui va rester fidèle aux descendants de David, n'est-ce pas? Et il y a à côté de cela, donc, maintenant, le royaume du nord, communément appelé Israël, et qui regroupe les 10 autres tribus. La capitale du royaume du nord, donc, sera appelée Samarie, et sera fondée par le roi Omri entre 878 et 870 avant Jésus-Christ. Autour des années 721 avant Jésus, le royaume du nord est conquis par les Assyriens, qui vont déporter une grande partie de la population juive et la remplacer par les païens. Autour de la captivité babylonienne, en 538 avant Jésus-Christ, le royaume du nord et le royaume du sud sont assujettis au gouverneur de Samarie. Bien qu'une distinction existe déjà entre les habitants de Juda et de Samarie, c'est avec la conquête donc d'Alexandre le Grand que les divisions et les inimitiés entre Juda et Samarie vont commencer à prendre de l'ampleur. Alors, en 334 avant Jésus, les Samaritains se sont rebellés contre les Macédoniens. Et les Macédoniens, en guise de représailles, donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont détruire Samarie. Et les habitants de Samarie donc, vont aller construire une autre ville quelque part sur d'anciennes ruines. Et quand ils vont construire dans cette ville, ils vont également construire pour leur lieu de culte un temple sur le mont Garizim, n'est-ce pas, près de Sichem. Et si on se souvient, en Jean chapitre 4, lorsque Jésus parle à la femme samaritaine, il lui dit, vous dites que c'est sur la montagne qu'il faut adorer, n'est-ce pas? Jésus faisait donc allusion à ce lieu de culte qui avait été bâti sur le mont Garizim et où les Samaritains adoraient. Et ce temple, plus tard, va être dédié à un dieu païen, n'est-ce pas, le dieu Zeus, par un souverain, celui-ci appelé Antiochus Épiphane. Donc, on voit déjà un peu comment est-ce que la Samarie a commencé un peu à se mélanger, à se mettre à l'écart. Il y avait Jérusalem qui était le lieu où on adorait Dieu. Ils ont eu leur lieu de culte. Ils ont commencé à développer leur façon d'adorer Dieu à eux-mêmes, n'est-ce pas? Ça a commencé à créer un peu une certaine division avec le peuple de Dieu même, avec les autres juifs. Alors, ils ont développé leur lieu de culte. Et selon l'histoire, il y a un historien, Flavius Joseph, il dit que les Samaritains avaient encore accès au parvis intérieur du temple de Jérusalem, c'est-à-dire bien qu'ils avaient leur lieu de culte, ils avaient encore accès au parvis extérieur du temple de Jérusalem. Et c'est vers le début de notre ère qu'un incident est survenu après la mort du roi Hérode le Grand, vers les années 7 ou 8 de notre ère effectivement. Et ça va donc créer vraiment de l'inimitié entre les Samaritains et les Juifs. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il se trouve que les Samaritains sont venus lors d'une fête de la Pâque. Et ils ont apporté des ossements humains dans le temple. Vous imaginez un peu comment ils apportent des ossements humains en pleine fête. Cela a été un scandale. Et lorsque ils ont fait cela, donc, les Juifs ont commencé à détester les Samaritains à un niveau inimaginable. Le mot « Samaritain » est devenu une injure en Israël. C'est-à-dire, lorsqu'on t'appelle un Samaritain, en fait, on est en train de t'injurer littéralement. Donc, je me rappelle même un film sur Jésus de Nazareth que j'ai souvent eu à voir, et là-dedans, il y a un juif qui dit que même Dieu n'aime pas les Samaritains, jusqu'à ce niveau. On peut comprendre également pourquoi lorsque Jésus-Christ montait à Jérusalem, n'est-ce pas, dans la parole de Dieu, dans Luc chapitre 9, à partir du verset 52, il voulait passer par une ville de Samarie, et les Samaritains ont dit, non, tu ne passes pas par ici. Et les disciples ont dit, mais Seigneur, tu veux qu'on invoque le feu du ciel pour les consumer? Et ces épisodes montrent vraiment comment il y a une tension entre les Juifs et les Samaritains. On se souvient également comment est-ce que dans Jean chapitre 4, les disciples viennent voir Jésus avec une femme samaritaine. Ils sont surpris, ils disent que Jésus parle avec une femme samaritaine. Et ces épisodes dans la Bible montrent un peu comment est-ce qu'il y avait vraiment une inimitié entre les Samaritains et les Juifs. Alors j'insiste donc sur la question des Samaritains pour que nous voyons un peu ce personnage que Jésus introduit dans le récit, n'est-ce pas? Et quelle peut être un peu l'idée que ceux qui l'écoutent peuvent avoir lorsqu'ils entendent Jésus introduire un Samaritain et que ce soit ce Samaritain qui soit un peu le bon Samaritain. Alors, la parabole nous présente donc de façon assez frappante une indifférence d'un prêtre, une indifférence d'un lévite face à un homme qui a été attaqué par les brigands. Ils arrivent, ils le voient et la Bible dit qu'ils passent outre. Et on peut se poser la question de savoir que, mais est-ce que ces gens étaient sans cœur, n'est-ce pas? Tu arrives, tu trouves quelqu'un. Naturellement, un homme, quand il voit quelqu'un qui est en difficulté, il veut l'aider, n'est-ce pas? Même si ce n'est pas un religieux, même si ce n'est pas quelqu'un qui croit en Dieu. Mais on voit des lévites, des gens qui lisent la loi. Ils arrivent, ils voient quelqu'un et ils ne font rien. Alors, il y a certaines personnes qui pensent que, non, le sacrificateur et le lévite, ils ne voulaient pas se souiller. Parce qu'il se trouve que s'il touchait un mort, tout de suite, il devait être souillé. Et parce qu'il devait être souillé, il ne pouvait plus entrer dans le temple. Voilà ce que certaines personnes pensent. Et on peut aussi se dire que, bon, peut-être qu'ils se sont dit, ah, si je m'en vais aider cet homme-là, peut-être qu'il y a les bandits là encore quelque part, ils peuvent m'agresser aussi. Ou même peut-être qu'ils se disaient que, ok, je préfère monter en ville chercher de l'aide, parce que aider quelqu'un comme ça tout seul, ce n'est pas prudent. Mais quelle que soit la raison qu'on peut trouver pour justifier l'indifférence du lévite et du sacrificateur, la parole de Dieu nous montre qu'il n'y a aucune raison qui puisse être valable, n'est-ce pas, lorsque nous manquons de compassion envers quelqu'un qui se trouve dans le besoin. Il n'y a aucune raison qui soit... Parce que Jésus-Christ tout de suite fustige cette attitude du lévite et du sacrificateur. Le message donc, en contraste, il y a dans le Samaritain, qui est un homme plutôt méprisé, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est lui qui vient et qui aide celui qui est sur le chemin. Et il se trouve donc que le message de la parabole du Samaritain, c'est donc une invitation à l'amour pour notre prochain. Et la question que nous avons posée tout à l'heure, qui est mon prochain? La Bible nous suggère simplement que notre prochain, c'est toute personne qui a besoin de notre aide et que le Seigneur va mettre sur notre chemin. Chaque fois que quelqu'un aura besoin de notre aide et que Dieu, de manière providentielle, va mettre cette personne sur notre chemin, alors c'est mon prochain. Ça, c'est ce que cette parabole nous suggère. Soulignons également au passage que l'amour pour son prochain, c'est quelque chose qui est central dans la parole de Dieu, n'est-ce pas? Nous avons dit que la parabole du bon samaritain, c'est une invitation à l'amour pour notre prochain. Et le message de l'amour pour son prochain, c'est un message qui est central dans la parole de Dieu. Dans Jacques chapitre 1, le verset 27, la Bible déclare que la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. La vraie religion, n'est-ce pas? Dans le monde, nous avons une idée de la religion. On se dit que la religion, c'est venir à l'église. La religion, c'est appartenir à une communauté. La religion, c'est faire ceci, c'est aller aux activités. Mais la Bible nous donne la définition de la vraie religion. La vraie religion devant Dieu, c'est d'avoir de l'amour pour son prochain. Dans 1 Timothée chapitre 1, le verset 5, l'apôtre Paul nous dit que le but du commandement, c'est une charité ou l'amour venant d'un cœur pur, c'est une bonne conscience, c'est une foi sincère. Voilà un verset qui m'a toujours frappé, le but du commandement. Quand je prends ma Bible comme ça, le but de ce commandement, c'est l'amour venant d'un cœur pur. Tout ce que nous pouvons lire dans la parole de Dieu a un seul but dans notre vie, que nous puissions être des gens, des hommes et des femmes qui aiment leur prochain d'un cœur pur et qui ont une bonne conscience et une foi sincère. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, nous connaissons un peu l'épisode où l'apôtre Paul fait un peu une éloge des dons spirituels. Il dit « Recherchez les dons » et il cite les dons, il cite les dons. Le don de guérison, le don d'accomplir des miracles, ainsi de suite. Et au verset 31, le dernier verset de 1 Corinthiens chapitre 12, voici ce que l'apôtre Paul dit « Aspirez aux dons les meilleurs et je vais encore vous montrer une voie par excellence. » Une voie par excellence. Mais quelle est donc cette voie par excellence? Le premier verset du chapitre 13, de 1 Corinthiens chapitre 13, nous dit « Quand je parlerai les langues des anges et des hommes, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. » L'amour pour mon prochain, c'est la voie par excellence. Une voie qui est bien au-dessus d'avoir tous les dons, n'est-ce pas? Je peux avoir le don de prêcher, je peux avoir le don de parler des langues, je peux avoir le don de guérir, de ressusciter les morts. Mais la voie par excellence, c'est d'avoir l'amour dans mon cœur pour mon prochain. C'est ça la voie par excellence. C'est un message central dans la Bible également. Dans 1 Jean chapitre 3, du verset 14 au verset 19, nous lisons ceci. « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ceci qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. L'amour pour mon prochain, c'est une preuve que Dieu habite en moi. Si tu n'aimes pas ton prochain, tu n'as pas besoin de te leurrer, Dieu n'habite pas en toi. Quel que soit ce que tu peux dire, tu peux raconter une histoire de conversion, dire le 13 février 91, j'ai donné ma vie à Jésus, raconter tout ce que tu veux. Mais si tu n'as pas l'amour de Dieu pour ton prochain dans ton cœur, tu n'as pas Dieu en toi. La Bible nous présente que c'est une preuve irréfutable de la présence de Dieu dans nos vies. La Bible nous dit également que c'est une source d'assurance devant Dieu. Est-ce que tu as l'assurance de marcher avec Dieu? Est-ce que tu as l'assurance d'avoir la vie éternelle? Est-ce que tu as l'assurance d'être en connexion avec Dieu? Pour avoir cette assurance, il faut que ta vie soit l'expression d'un amour véritable et profond pour ton prochain. Dans 1 Jean chapitre 4, du verset 7 au verset 11, nous lisons également « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ceci que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. » L'amour pour mon prochain, c'est une preuve de ma communion avec Dieu. Est-ce que tu es en communion avec Dieu? Pour le savoir, il faut regarder quel est le degré d'amour que tu as pour ton prochain. La communion avec Dieu, ce n'est pas fermer les yeux de manière émotive, lever les mains vers le ciel et dire tout ce qu'on veut. La parole de Dieu nous dit l'amour que tu as pour ton prochain, ça sera une traduction claire et nette de ta communion avec Dieu. Enfin, dans 1 Jean chapitre 4, le verset 20, il est dit « Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ?» Dans notre amour pour notre prochain, c'est une preuve si oui ou non, Dieu habite dans nos cœurs. C'est la seule et unique évidence d'une rencontre effective et authentique avec Dieu. C'est la seule. Quelqu'un qui a rencontré Dieu, quelqu'un qui est en contact avec le Seigneur, la seule preuve dont nous parle la parole de Dieu et qui est sans contredit, c'est l'amour que j'aurai pour mon prochain. C'est la preuve si oui ou non nous hériterons de la vie éternelle. Et si cette preuve n'est pas claire dans notre vie, alors c'est possible que nous soyons juste dans une simple illusion de vie chrétienne, une simple illusion de salut. En regardant notre amour pour notre frère et notre sœur, chacun d'entre nous peut donc se faire une idée de sa véritable spiritualité. N'est-ce pas? Est-ce que tu es un homme spirituel? Est-ce que tu es un homme qui connaît Dieu? Pour avoir une idée, regarde ton amour pour ton frère, regarde ton amour pour ton prochain. Toute autre chose est juste trompeuse. Et puisque la question de l'amour est donc centrale dans la vie chrétienne, dans la parole de Dieu, qu'est-ce que ça signifie d'aimer son prochain? N'est-ce pas? On peut se poser cette question. Est-ce que c'est juste de la générosité? Est-ce que aimer son prochain, c'est l'humanisme? Dans le monde, il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui sont des gens qui posent des actes humanitaires, n'est-ce pas? Est-ce que aimer son prochain, c'est une émotion forte qu'on éprouve pour quelqu'un, n'est-ce pas? Tu vois quelqu'un, tu as pitié de lui, tu dis ouais, et ensuite tu continues ta vie. Est-ce que c'est ça, aimer son prochain? L'amour dont il est question ici, c'est le débordement envers les autres d'un cœur reconnaissant de ce que Dieu a fait pour lui au travers de l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. C'est ça, aimer son prochain. Et je veux répéter cette phrase. L'amour dont il est question ici, c'est le débordement envers les autres d'un cœur reconnaissant de ce que Dieu a fait pour lui au travers de l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. C'est ça, aimer son prochain. Mais comment faire donc pour manifester cet amour dans notre vie? Comment? Pour savoir si nous manifestons l'amour pour notre prochain, un exercice très simple, c'est de remplacer notre nom, remplacer le mot amour par notre nom dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4 au verset 7. Et après, nous allons voir si ça colle avec la réalité, n'est-ce pas? Alors, je me suis essayé à cet exercice et voici ce que ça a donné. Théophile est patient. 1 Corinthiens 13, verset 4 à 7, voici ce que ça donne. Théophile est patient. Il est plein de bonté. Il n'est point envieux. Il ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Théophile ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Théophile ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Théophile excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Essayez le même exercice en remplaçant le mot amour par votre nom. Et vous voyez si ça colle avec la réalité, n'est-ce pas? Et ce qui est sûr, c'est que en nous soumettant à un tel exercice, nous n'avons pas besoin d'aller trop loin avant de nous rendre compte que nous avons besoin de Dieu dans cette affaire, n'est-ce pas? Que nous avons besoin que quelque chose se passe dans notre vie. Et manifestement, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons manufacturer, que nous pouvons créer, que nous pouvons fabriquer par nous-mêmes. Lorsque nous avons, de par le Seigneur, une telle interpellation à aimer notre prochain, parfois on se dit, il faut que j'aime mon prochain. C'est quelque chose qu'on ne peut pas créer par nous-mêmes. Si tu veux essayer de créer cet amour pour ton prochain par toi-même, ça ne va rien donner de bon. La Bible nous dit dans Romains chapitre 5, verset 5, que « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Cela suppose que si dans ton cœur tu sens que tu n'as pas cet amour pour ton prochain, si dans ton cœur tu n'as pas cette preuve d'être en contact, en communion avec Dieu, tu as besoin de te tourner vers le Seigneur et dire « Seigneur, j'ai besoin que tu me visites. J'ai besoin que tu fasses quelque chose dans ma vie. » Comme une preuve que je te connais, comme une preuve que tu m'as touché, que tu as transformé ma vie. Et alors, si tu es sincère, la parole de Dieu nous dit que l'amour de Dieu va être répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit. Est-ce que ce matin, tu veux recevoir cet amour dans ton cœur, frère? Est-ce que ce matin, tu veux laisser le Seigneur Jésus faire quelque chose dans ta vie? Ça, c'est la question à laquelle nous devons pouvoir réfléchir et méditer. Comme je l'ai dit au départ, il se trouve que la parabole du bon samaritain contient également un certain nombre de messages assez symboliques, n'est-ce pas, pour nous, enfants de Dieu, pour l'Église du Seigneur Jésus. D'abord, de manière symbolique, la parabole du bon samaritain, c'est une image du salut. Souvenons-nous que la question de départ que nous avons, qui est un peu comme le contexte de cette parabole, c'est un homme qui vient voir Jésus et lui pose une question. Qu'est-ce qu'il faut faire pour hériter la vie éternelle? Il se trouve que la sagesse divine a également mis une réponse symbolique à cette question dans la parabole du bon samaritain, n'est-ce pas? De manière symbolique, Dieu a mis une réponse à cette question du docteur de la loi dans cette parabole. En effet, cette parabole est une belle figure du message du salut, illustrée par cinq des personnages utilisés par Jésus dans son récit. Premièrement, il y a le voyageur. Le voyageur ici représente l'homme pécheur. Le texte nous dit qu'il part de Jérusalem vers Jéricho, n'est-ce pas? Jérusalem, c'est le lieu de la présence de Dieu. Donc, on voit un homme, un voyageur, qui s'éloigne de la présence de Dieu. Et pendant qu'il s'éloigne de la présence de Dieu, la conséquence, c'est qu'il est livré entre les mains d'un voleur. Et le voleur ici, c'est Satan. Satan détruit notre vie en nous incitant au péché. Le péché, la souffrance morale et physique sont les marques visibles de son action dans la vie de l'homme. Et lorsque Satan nous a criblés par le péché, toutes sortes de choses, il nous laisse sur le chemin à demi-mort. Et là arrive le prêtre. Le prêtre, c'est une figure de la loi et de la religion, incapable de nous sauver par ses préceptes. Après le prêtre, il y a le lévite qui arrive, et le lévite, donc, c'est une figure de bonnes œuvres. Là encore, également, le lévite ne peut rien pour nous. Il est incapable de nous sauver. En effet, la Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, le verset 8, que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, nous sommes sauvés par la grâce, n'est-ce pas? Cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Et lorsqu'on parle des œuvres, il faut dire que c'est quelque chose avec laquelle très souvent nous essayons de lutter. Lorsque quelqu'un est touché, pas convaincu du péché, parfois on essaye par nos propres œuvres pour essayer de nous en sortir. Il y a cette petite image que j'ai souvent eue dans mon esprit, c'est l'image du venin du serpent. Alors les gens qui font des recherches disent que dans le venin du serpent, il y a 80% de protéines. Et nous savons comment les protéines sont importantes pour l'homme. Et il n'y a que 20% de toxines. 80% de protéines, bonnes pour l'organisme, et 20% de toxines. Mais lorsqu'un serpent te mord, ce qui est sûr, c'est que les 80% de protéines ne t'aident pas. La toxine est suffisante pour t'envoyer sous la terre. Et de la même manière, lorsque le péché est dans ta vie, n'est-ce pas, même s'il n'y a que 20% de péché, tu peux ajouter toutes les bonnes œuvres que tu veux, n'est-ce pas? Ce qui est sûr, c'est que tu ne seras pas agréable devant Dieu. Après le lévite, donc, qui représente les bonnes œuvres, il y a le samaritain qui arrive. Et le bon samaritain, c'est une figure de Jésus-Christ. Dans Ésaïe chapitre 53, la Bible dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Il était méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Voilà comment on le décrit dans Ésaïe chapitre 53. Et il se trouve que c'est ce Jésus méprisé, abandonné des hommes, qui réussit à venir en aide aux voyageurs que nous sommes, aux pécheurs que nous sommes, que la loi, les bonnes œuvres et la religion n'ont pas pu sauver. C'est Jésus, le bon samaritain, qui réussit à nous sauver. Est-ce que tu as laissé Jésus, le bon samaritain, t'apporter le secours face au péché qui était dans ta vie? Il est rempli de compassion et il risque sa vie pour nous. Et de cette façon, il peut apporter le salut. Si tu n'as pas l'assurance de la vie éternelle, ce matin, le Seigneur voudrait que tu puisses le rencontrer. Ce matin, le Seigneur voudrait que tu puisses faire une alliance avec lui. Jésus, le bon samaritain, voudrait te tendre la main. Il voudrait transformer ta vie. Il voudrait que tu deviennes une nouvelle créature. Nous avons dit que la religion ne peut rien. Peut-être tu es ici depuis longtemps. Peut-être tu es impliqué dans les activités de l'Église, n'est-ce pas? Peut-être tu es même baptisé. Mais est-ce que tu as déjà Jésus dans ta vie? Est-ce que l'Esprit de Dieu rend témoignage à ton esprit que tu es un enfant de Dieu? C'est souvent un très grand leurre quand on est dans la maison de Dieu, mais on n'a pas encore rencontré le Seigneur Jésus. Il est important de pouvoir véritablement répondre à cette question essentielle. Est-ce que j'ai l'assurance que si je meurs aujourd'hui, je vais hériter de la vie éternelle? La parabole du bon samaritain, c'est également un message de Dieu pour chaque membre de l'église de Saint-Léonard. Il y a dans notre texte un sixième personnage, et ce sixième personnage, c'est l'hôtelier. Jésus, le bon samaritain, a donné sa vie pour le voyageur pécheur, n'est-ce pas? Et il est venu vers l'hôtelier, il lui a remis deux deniers. Alors, l'hôtelier ici, c'est une image de chaque membre de l'église de Saint-Léonard. Et le Seigneur t'a remis deux deniers. Ces deux deniers représentent des talents que le Seigneur t'a donnés. Ça représente des talents que le Seigneur a mis à ta disposition pour que tu puisses prendre soin de ces voyageurs que le diable a criblés de péché. Et en plus des deux deniers qu'il t'a donnés, le Seigneur t'a donné un mandat. Et il te dit, prends soin de ce voyageur. Il te dit, prends soin des pécheurs qui sont ici à Saint-Léonard. Prends soin des pécheurs qui sont dans le quartier où tu vis. Prends soin des pécheurs qui sont dans ta classe, dans ton lieu de service. Voilà le mandat que le bon samaritain te donne, toi l'hôtelier. Et en plus de cela, il te donne une assurance. Il te dit, ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail, bien-aimé. Si tu dépenses de ton temps pour le salut des hommes, Dieu te fait cette promesse, je te le rendrai à mon retour. Si tu dépenses ton trésor, Dieu te fait cette promesse, je te le rendrai. Et si tu dépenses également tes talents, tu as la même promesse, je te le rendrai. Frère, j'ai quelques questions à te poser. Est-ce que tu es conscient du mandat que le Seigneur te donne en tant que membre de l'église de Saint-Léonard? Est-ce que tu es conscient de ce mandat? Celui d'annoncer l'évangile dans ce quartier, celui d'annoncer l'évangile partout où il t'a placé. Ou alors peut-être tu t'es dit, ok, cette histoire d'annoncer l'évangile, c'est la job du pasteur Benoît, du pasteur Ovidu et de ses amis du conseil. Est-ce que toi, en tant que membre de l'église de Saint-Léonard, tu es conscient qu'à toi aussi Dieu donne ce mandat? Est-ce que tu es conscient, est-ce que tu as identifié les talents que Dieu t'a donnés pour accomplir ce mandat? Est-ce que tu les as identifiés? Est-ce que tu connais les talents que Dieu t'a donnés pour réaliser ce mandat? C'est la deuxième question que je veux te poser. Et enfin, est-ce que tu es conscient que de grandes promesses s'attachent à ce mandat que le Seigneur te donne? Je voudrais que nous baissions simplement nos têtes et que nous puissions méditer ensemble sur ces trois questions et que chacun puisse donner une question, une réponse à Dieu pour lui-même. Est-ce que tu es conscient de ce mandat? Est-ce que tu as identifié les talents que Dieu t'a donnés? Et est-ce que tu sais que de grandes précieuses promesses sont attachées à cette mission que le Seigneur te confie? Seigneur, notre Dieu, notre Père, face à ta parole, face à ton interpellation, nous voulons simplement, éternel Dieu, répondre. Seigneur, le cri de notre cœur, c'est que chacun réponde devant toi, que chacun réponde à l'interpellation que tu as adressée à son cœur ce matin. Et que nous ne puissions pas sortir d'ici, éternel Dieu, sans t'avoir donné une réponse. Seigneur, tu as parlé à chacun d'entre nous, et notre désir, c'est de pouvoir t'entendre, éternel Dieu Tout-Puissant, nous soutenir. Notre désir, c'est de pouvoir répondre, éternel Dieu, à ton interpellation. Nous sommes faibles, nous sommes limités. Peut-être d'autres questions jaillissent encore dans nos cœurs, mais nous croyons que tu es Dieu et tu as la capacité éternelle, Père, de répondre à ces questions. Nous voulons te bénir et nous prions afin que tu nous aides et que tu nous donnes la grâce d'être des hommes et des femmes qui te connaissent, des hommes et des femmes qui ne vivent pas dans l'illusion du salut, des hommes et des femmes éternels, Père, qui peuvent traduire par une vie remplie d'amour qu'ils t'ont rencontré véritablement. Et des hommes et des femmes, Seigneur, qui peuvent être des instruments entre tes mains pour faire connaître ton nom où tu nous as placés. Merci pour ta parole ce matin. Nous courbons nos têtes et nous prions afin qu'elle soit amène et vive dans nos cœurs. Et reçois toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.